Voici de Montréal.
Une émission consacrée à la nouvelle littérature québécoise. Fiction, poésie et essais. Une coproduction du webzine La Recrue du Mois.
Et de CKCU Literary News, réalisé par
Lucie Renaud
et Hanske Auger-Ruprecht.
Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue aux actualités littéraires. Lucie Renaud au microphone, rédactrice en chef de La Recrue du Mois, webzine consacré au premier roman québécois. Je m'entretiens aujourd'hui avec Jean-Philippe Martel qui a publié à l'automne « Comme des sentinelles » aux éditions La Mèche. Alors bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Lucie.
Alors Jean-Philippe, ce premier roman, je sais qu'il a été en fait sollicité d'une certaine façon par ton éditrice qui t'avait lu sur ton blog. Comment ça s'est passé et quel genre de réaction as-tu eu quand on t'a contacté de cette sorte finalement?
Évidemment, j'étais heureux d'être sollicité. C'est flatteur là, d'être sollicité pour voir si j'avais quelque chose d'autre que ce que je mettais sur mon blog. Blog qui, à ce moment-là, commençait à connaître du succès, mais que je tenais depuis plus d'un an aussi. Donc, il y avait une sorte de travail continu derrière ça que je tiens toujours, littéraire après tout.
Oui. Ouais. Qui nous avait proposé, d'ailleurs, une superbe rétrospective... Pas en décembre cette année, mais l'autre avant,
oui.
Qui était assez rigolote, mais en même temps très mordante.
Oui, j'en ai fait une autre cette année, mais c'est d'ailleurs à la suite, un peu dans la suite de ce biais-là qu'on m'avait contacté.
Ce projet, comme des sentinelles, est-ce qu'il était dans tes cartons depuis plusieurs années ou
J'avais quelque chose qui ressemblait à ça, qui était un peu sous la même forme de fragment, mais qui racontait d'autres histoires aussi. Que j'ai retravaillé beaucoup avec Geneviève Thibault de La Mèche, qui s'est vraiment investie comme lectrice, même dans le travail du manuscrit.
Donc, le personnage principal, c'est quand même un personnage, jusqu'à un certain point, atypique. En même temps, cette espèce de loser plus ou moins sympathique est devenu un peu emblématique d'une certaine littérature québécoise, mais... Il y a quand même quelque chose de différent ici parce que c'est quelqu'un qui est aussi cultivé, qui enseigne la littérature et tout ça. Est-ce que c'était pour toi un clin d'œil à ce que tu fais comme métier? Est-ce que tu avais besoin d'une certaine façon de pouvoir unir ces deux pôles-là, le côté très littéraire et plus trash jusqu'à un certain point? Ou comment
oui,
tu voyais ça?
Oui, je voyais ça un peu comme ça, presque de l'ordre du prétexte ou dans la mesure où aussi je voulais faire un roman dans lequel on voyait une opposition de deux types de personnages vraiment très marqués. Donc, le personnage principal, le narrateur, Vincent Sylvestre, qui fait une thèse en littérature, qui est chargé de cours, tout ça, et qui va rencontrer quelqu'un de complètement différent. Donc, c'est ce parallèle-là au début qui m'intéressait. Qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir en commun, ces deux personnages-là, en même temps, ce qui les différenciait, ce qui pouvait les énerver l'un de l'autre, tout ça. Donc, le roman, moi, ça devait porter sur ça au départ.
OK. Est-ce que c'est une nouvelle façon de voir l'altérité à travers tes deux personnages?
Je dirais comme ça, mais oui, bon, ce rapport-là aussi à la culture, là, le personnage plus cultivé, francophone, et l'autre personnage qui est une sorte de white trash des cantons, hein, si on veut. Alors que, à mon avis, disons, dans la littérature québécoise, on voyait pas beaucoup ça. Le personnage anglophone, c'était plutôt le dominant, économiquement, même culturellement, tout ça. Tandis que là, c'est pas du tout le cas, je pense. Là. C'est plutôt le dominé total. C'est l'homme oméga, là.
Tout à fait, mais en même temps, il raconte son histoire, alors ça pourrait être intéressant de savoir si c'était raconté de l'autre côté. Peut-être qu'il y aurait le même genre
Oui, le même snobisme inverse, ouais. Peut-être. Oui. Justement pour ce snobisme-là, le cynisme, moi, ça me faisait rire aussi. Là, des fois, ce point de vue un peu dur sur le monde là, qui fait que peut-être, oui, ça échappe, là, le roman échappe à un certain... discours qu'on a déjà entendu, peut-être un peu de trash, blasé, séducteur et conduit, tout ça, là.
Mais je crois que c'est intéressant aussi de situer l'action, bon, à Sherbrooke, d'où tu viens.
Oui.
Mais qu'on avait, c'est comme, il y avait une dualité aussi entre la ville et la campagne, mais qui est pas celle qu'on associe habituellement, là. Alors, c'est pas entre la super grosse métropole puis le bled perdu, c'est quand même, Le rapport de force entre les deux endroits où vivent nos héros, si l'on veut, est quand même différent là par rapport à d'autres façon d'avoir été traité dans la littérature québécoise jusqu'ici?
Oui, Sherbrooke, c'est une petite ville. Bon, là, j'ai pas trop réfléchi comment c'était fait dans la littérature québécoise. Moi, je venais de là, je me suis dit, je vais représenter ma ville. Pourquoi pas? Il y a pas de raison pour qu'on représenterait une ville plutôt qu'une autre. Je pense pas qu'il y a des villes, disons, plus littéraires que d'autres, mettons. Mais, en même temps, Sherbrooke est quelque chose d'universel dans Sherbrooke. Sherbrooke, ça peut être n'importe quelle ville. Quelqu'un qui vient de, je sais pas moi, Valleyfield, Trois-Rivières, plein de monde qui vivent dans des petits centres, on va dire, puis vivent des réalités qui ressemblent à celles que les gens peuvent vivre dans une petite ville universitaire comme Sherbrooke.
Mm-hmm. Mais en même temps, le fait que ça soit une ville universitaire, ça change. Il y a peut-être toute une perception qui est un petit peu plus rehaussée là, que d'une ville où il n'y aurait pas d'université.
Ben, dans le livre, c'est important, en tout cas, parce que ça se passe dans ce milieu-là. Il faut qu'il aille à l'université, il va enseigner, il y a des rapports un peu complexes avec ses collègues. Bon, on ne les voit pas beaucoup, mais quand même, on devine. Donc, il est pris entre ces deux milieux-là, le milieu de la campagne, qui est plus trash ici, associé à Robert Thompson, mm-hmm. et le milieu de la ville, qui est, dans son cas, associé à deux choses, à l'université et au centre-ville, là, à sa vie nocturne.
Oui, c'est ça qui est quand même... qui ne manque pas de rebondissements.
Non, non, ouais.
Est-ce que pour ceux qui pensaient que Sherbrooke était une ville ennuyeuse, certainement, ils n'ont pas passé la soirée avec ton héros.
Non. Et Sherbrooke, une grande tradition... comment dire, criminelle. aussi liée à l'histoire des Hells Angels, par exemple. Tout ça, donc... pas si surprenant que ça, finalement.
Alors, d'enseigner la littérature, donc de partir de ce milieu-là, puis en maintenant de s'inscrire, d'inscrire le personnage là-dedans, est-ce qu'il n'y avait pas un danger qu'on puisse penser que le personnage, dans le fond, c'est toi?
Peut-être. Ça ne me dérange pas tellement, en réalité, si les gens ont envie de penser ça, que c'est l'auteur qui parle, bon, tant mieux, tant pis.
Mais où est donc la rencontre des narcotiques anonymes? C'est dans ton quartier. Mais sinon, est-ce que ce rapport-là à la littérature, je trouvais que c'était intéressant, ça ajoutait une dimension qui était qu'on n'attendait pas dans ce roman-là. Dans le fond, par exemple, j'ai lu en lisant certains des chapitres qui sont plus ou moins des pourparlers, pas des pourparlers, mais qui se portent à la défense de certains livres de la littérature, dont certains sont peut-être mal aimés ou maltraités parce qu'on est obligé de les lire.
Oui,
à l'université
oui,
ou
rapport
en faculté.
À la grande culture, qui aussi, pour moi, était comme une manière de rejouer la quête des pères, là, peut-être. T'sais, les personnages cherchent leur père dans le roman, et donc c'est un roman sur la filiation, on va dire, biologique, mais aussi culturelle, dans la mesure où il évoque cette tradition littéraire-là avant lui. Et donc, chaque fois qu'il est question d'un roman ou d'une œuvre, dans le roman, c'est aussi un roman à la première personne. Un roman, donc c'est un livre aussi qui porte sur les écritures, du moins, si on veut.
Oui, alors c'est un choix conscient, donc, ici.
Oui, clairement. Ça commence directement avec Jean-Jacques Rousseau, qui, mm-hmm. donc, qui nous a barbouillé son moi considérablement.
Oui, tout à fait. En fait, déjà, d'entrée de jeu, avec ce chapitre-là, quand on finit ça, on fait comme ouf, tu sais, alors, mais... C'est, en fait, c'est peut-être après avoir lu ce chapitre-là que moi, j'ai vraiment embarqué dans le roman. Au début, j'étais comme, ah, bon, où est-ce qu'on s'en va, tout ça. Et puis là, ça a comme rassemblé. Puis j'ai fait, ah, mais quand même, il y a quelque chose, il y a une voix qui est différente. Et puis la multiplicité des voix, justement, me semblait naturelle après ça, en perspective de la référence à Rousseau.
Ouais, je trouvais aussi important qu'on le voit, le personnage, en classe. Qu'il y ait des éléments concrets, pas juste qu'il soit, tu sais, chargé de cours comme, bon, c'est son, une sorte d'état civil, là, mais qu'on le voit, c'est quoi sa vie en classe, comment il se présente, comment il vit ça, lui, l'enseignement, puis tout son rapport à la littérature. Qu'est-ce qu'il a à en dire, finalement, puisqu'il a apparemment choisi d'en faire sa vie.
Oui.
Donc ça, je trouvais ça plus concret, si...
Donc, tout à fait comme Jean-Philippe Martel dans La vraie vie civile, qui a choisi d'en faire sa vie.
Oui, mais qui a un rapport complètement différent à l'enseignement, notamment.
OK. Alors, quel est ce rapport à l'enseignement? Comment est-il différent de...
Oh, le mien est clairement positif. Moi, je c'est une joie à enseigner. J'adore ça. Je suis à l'aise en classe. Beaucoup plus que Vincent Sylvestre, c'est clair.
OK. Ouais. Alors, tu es allé puiser dans le côté sombre, mais...
Mais des fois, il y a des choses
vraiment aller là.
Il y a des choses, non, c'est ça. Il y a des choses qui, par exemple, me traversent l'esprit, mais que je pense pas vraiment. Je suis capable d'y penser, mais auxquelles j'adhère pas nécessairement. Donc ça, je me suis servi de ça pour mon livre, mais sinon, moi, j'ai pas du tout le même genre de pensée que lui en classe. Même le rapport aux étudiants est complètement différent.
Okay, alors, est-ce que tes étudiants sont venus te dire « Oui, M. Martel, vous avez publié, j'ai lu votre livre d'une façon semi-gênée » et où, finalement, s'il n'y a pas eu ce genre de réaction?
Il y a quelques étudiants qui l'ont lu, qui sont venus m'en parler, mais je pense qu'ils faisaient la part des choses aussi. Justement parce que, peut-être justement parce que je leur enseigne de faire la différence entre le narrateur et l'auteur. Ils étaient peut-être un peu gênés de le dire le fond de leur pensée, je sais pas.
Mais ouais, en fait, j'imagine ceux aussi qui se sont présentés où c'est difficile de venir dire aux professeurs qu'ils n'ont pas aimé ça.
Ouais, peut-être que les autres l'ont lu puis finalement ils ont détesté ça, mais moi non, je n'ai pas parlé, ça se peut.
Ça, je ne suis pas nécessairement. D'ailleurs, dans le chapitre sur Benjamin Constant, il y a un passage que je trouve qui est à peu près, qui est représentatif, en fait, d'une certaine façon, de la démarche, ou enfin, qui sous-tend finalement toutes les démarches, peut-être, en tant qu'écrivain, qui est celui ici. Je vais vous avouer une chose. Des fois, j'ai l'impression que l'amour d'Adolphe et la littérature sont une seule et même chose. Comme Adolphe, qui se regarde feindre un amour pour Eleanor et se met à y croire, l'écrivain se regarde écrire, devient ce personnage qui écrit et se met non seulement à croire à l'histoire qu'il raconte, celle d'un one-night stand foireux, mais aussi à celle de toute la littérature, histoire dans laquelle il cherche à s'inscrire et dont il a besoin pour justifier son propre travail, peut-être sa propre existence. Est-ce que étudiant en littérature ou transmettre la littérature, c'est devenu ça, selon toi?
Faire croire à cette histoire-là? Mm. Mais écrire peut-être. Mais enseigner ou étudier là-dedans, je crois pas trop que ce soit ça. D'ailleurs, les étudiants y croient plus que nous, souvent. Il y a quelque chose qui les intimide là-dedans, mais peut-être au contraire, l'enseigner, c'est un peu déboulonner cette histoire-là, ce rapport un peu naïf-là qu'on a à la littérature avec un très grand L. Tandis qu'écrire, oui, bon, qu'est-ce qui est la différence entre une anecdote qu'on raconte, ce que j'ai fait en fin de semaine, et une anecdote racontée dans un livre qui fait donc partie de la littérature, donc c'est le lien avec. Est-ce qu'on arrive à arrimer notre anecdote à une histoire plus vaste? Mm-hmm. Là, dans la perspective du personnage qui est du héros qui est narrateur aussi, c'est un mensonge, évidemment. Puis là, il y a une réflexion parce que lui aussi est un peu menteur de manière générale. Donc, il va devoir peut-être pas trouver une solution, mais réfléchir à cette question-là.
La grande question, ouais. Finalement. En fait, tout ce chapitre-là donne tout à fait envie de lire le livre que j'ai dit, bon, il faut que je sorte ça de ma bibliothèque, parce que je pense pas que je me suis jamais frotté à Benjamin Constant. Alors,
j'étais un peu content de, j'étais assez content de moi quand j'ai pensé à ça. Je me suis dit, ça, faut que je le mette dans un livre.
Est-ce que c'est un livre qui est important pour toi?
Je l'aime beaucoup, ce livre-là. Ça vieillit un peu, là. On n'en parle pas beaucoup, là, Benjamin Constant, bon, de son roman. Moi, je l'aime beaucoup. D'abord, il est très bref, donc de grande qualité. Tu prends pas ta journée une semaine là-dessus. Et aussi, donc, ça raconte. On a fait une lecture biographique. Hein, ça raconte apparemment son histoire d'amour avec Madame de Staël, mm-hmm. Ce qui, bon, mais en même temps, on dit que c'est un roman. Donc, dans quelle mesure c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est des questions qu'on se pose souvent aujourd'hui encore, non? T'en as parlé tout à l'heure.
C'est ça, on pourrait dire. C'est ça.
Donc,
c'est le premier livre d'autofiction.
Il y en a, à mon avis, il y en a plein d'autres avant, ouais. Mais c'est ça qu'on oublie quand on dit, on est fatigué des autofictions, mais si on est fatigué des autofictions, faut enlever Adolphe, enlever Rousseau, Proust, Céline, ça fait beaucoup. ça me dérange pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns quand même, c'est gênant, tu sais, c'est toutes les années. Et oui, ce roman-là, je l'aime beaucoup. Je l'enseigne de temps en temps quand j'ai le temps. Et finalement, c'est ça, on l'oublie dans l'histoire littéraire, mais il raconte une histoire assez éternelle qu'on pourrait changer, comme je le dis dans le personnage, je le dis dans le roman. D'ailleurs, on changerait des éléments de décor, puis ça resterait assez actuel. Donc, c'est l'histoire de ce personnage-là qui tente de séduire une femme, mais il s'avère que la séduction va être difficile à faire. Il va devoir faire croire à son amour. Donc, c'est une histoire, on va dire, immortelle.
On veut des preuves.
Ouais.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres livres comme ça que tu choisis qui sont importants à transmettre selon toi, en tant que professeur?
Oui, il y en a plein. Ce que j'essaie de faire quand j'enseigne la littérature française, puisque là c'est de la littérature française qui est question, j'essaie de choisir des livres qui sont pas nécessairement les livres qu'on enseigne habituellement, mais au contraire des livres qui vont peut-être nous donner une autre perspective sur l'histoire littéraire. Par exemple, des fois j'enseigne Ouvert la nuit de Paul Morand, qui était un auteur très allemand dans les années 20, aujourd'hui presque oublié en partie parce qu'il a collaboré avec les nazis dans la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais.
Donc, évidemment, on a des raisons idéologiques de le mettre à l'index, si on veut. Mais il reste que son œuvre, finalement, est très intéressante. C'est dynamique, éclaté. Pour les années 20, c'est vraiment très intéressant, c'est vivant, c'est drôle, bon. Par ailleurs, par exemple, plutôt que d'enseigner l'existentialisme, bon, je l'enseigne rapidement, mais après, je vais mettre d'autres livres au programme, par exemple. Le Hussard bleu de Roger Nimier, qui est un contemporain de Sartre, mais qui écrit une autre littérature complète. Donc, je trouve que on a une autre, à montrer un autre rapport à la littérature, montrer justement une autre vision de l'histoire littéraire, montrer qu'il n'y a pas juste une littérature, mais que ça change, que notre vision de l'histoire change avec le temps et selon nos points de vue. Ce qui ne va pas toujours de soi pour des étudiants, même à l'université.
Qui sont habitués, d'une certaine façon, à un enseignement peut-être un peu plus dogmatique. On nous dit quoi penser, et puis...
C'est, par la force des choses, et là, maintenant, j'enseigne aussi au cégep, et par la force des choses, on est obligé de tourner les coins ronds un petit peu, entre autres au cégep, et donc, on n'enseigne qu'une vision de la littérature. C'est ça, ça suffit. On a 15-16 semaines, ça va très vite. Donc, on ne dit pas, il y aurait d'autres manières de le voir, ou pas beaucoup. Tu sais, pas d'autres lectures, par exemple, si on était aujourd'hui encore, profondément catholique, on aurait certainement toute une autre histoire de la littérature québécoise.
Tout à fait. Alors, parlant de la littérature québécoise, elle aussi devient de plus en plus protéiforme, je trouve.
Oui, oui.
Et puis, en fait, ton livre, Comme des sentinelles, transmet bien cela, qu'on a le fait que ce soit un petit peu plus fragmenté, qu'il y a... le retour en arrière, donc un lien, la recherche de la filiation, par contre, évidemment, qui est le fil conducteur de tout le livre, qui a, jusqu'à un certain point, même différents niveaux littéraires dans l'écriture. Est-ce que c'était une volonté, justement, de disperser, de faire éclater, d'une certaine façon, les carcans pour
c'est
toi?
Une volonté et peut-être une paresse aussi, pour le dire vraiment candidement. En écrivant, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus, comment dire, gratifiant de finir une partie assez rapidement. Quand, donc, en pure paresse, j'écris 3 ou 4 pages, une partie, c'est fait, c'est fun, je suis content de ma journée. Tu sais, tandis que si j'avais un roman suivi, moi-même, je trouve ça un peu emmerdant quand c'est très, très long. Quand je lis comme lecteur, mais aussi, moi, quand je l'écris. Je me fais ça, ce plaisir-là. J'écris des petites parties.
Donc, est-ce que les parties ont été écrites à peu près dans cet ordre-là ou si tu as travaillé sur une voix à la fois?
Je les ai écrites en désordre, mais il y en a beaucoup qui ont disparu à la réécriture. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu, d'autres qui sont apparues, que j'ai écrites, donc des parties que j'aurais écrites après coup. Je les ai écrites dans le désordre. Pour le dire honnêtement, c'était un peu foutoir. Mais
quand tu as commencé à écrire, tu savais...
Je connaissais la fin, on va dire. Puis où je voulais m'en aller, en gros. Puis après, il y a des parties qu'on peut déplacer ou non. Après, on voit comment... j'essayais de mesurer mes effets entre les transitions. Est-ce que cette partie-là peut suivre celle-là? Bon, pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une suite? Ou peut-être pas dans l'histoire, mais peut-être sur les thèmes, quelque chose comme ça.
Quand on passe sa vie professionnelle, d'une certaine façon, à analyser des textes, est-ce qu'on a une tendance à se suranalyser en tant qu'auteur ou tu as été capable de dissocier ces deux aspects-là de toi complètement?
Je m'analyse pas vraiment, mais c'est sûr que j'avais un peu quelque chose à dire sur la littérature aussi. Donc, en partie, l'histoire sert à parler d'autre chose. Donc, je sais pas... Je veux dire, je m'analyse pas, mais disons, j'aurais pas plus conscient, mais je suis assez conscient de ce que j'essaie de produire, du moins. Je sais pas si c'est réussi, mais au moins...
Mais est-ce qu'on n'a pas un regard, disons, purement, beaucoup plus critique, par exemple, au niveau de la forme, tu sais, de la juxtaposition avec le fond, juste au niveau de la stylistique, quand on est confronté au quotidien à des grands textes, est-ce que ça peut devenir castrant jusqu'à un certain point en tant qu'auteur ici?
Ben, je suis pas très castré, de manière générale, dans la vie, mais disons que je suis assez conscient de ce que je veux faire. Ça, je sais pas si je suis plus critique. Peut-être pour les autres, je suis critique. Pour moi, je suis assez conscient de ce que je veux faire. Moi, ça, j'essaie d'aller dans du point de vue de la forme, de, quand même dans la simplicité. Là, je veux dire, mon histoire est lisible au premier degré, je pense. Le ton, je cherche pas à impressionner par l'emploi d'un vocabulaire très précieux. Ou, en fait, je cherche plutôt l'inverse. Que ça se lise comme si vous m'entendiez, peut-être dans votre tête, ou quelque chose comme ça, ou comme si on entendait le personnage, ou si on reconnaissait un ton.
Oui, mais en même temps, le personnage a un vécu d'universitaire, donc on s'attend pas nécessairement qu'il va parler...
Non, mais il emploie pas, par exemple, des mots comme des galipettes ou des farandoles ou des...
Non,
des choses comme ça. Mais des fois, on voit ça encore, puis je trouve ça curieux, ou des formules un peu syntaxiques qui sont un peu... paraissent en alambiqué. Je suis assez partisan d'une langue proche de la langue parlée.
Est-ce que le prochain roman est déjà en chantier?
Oui.
Et est-ce qu'on est complètement dans un autre univers ou ben non?
Oui, quand même. Oui, c'est autre chose, un autre ton, un autre temps de récit, un autre type de narration, une autre histoire, une autre ville.
Est-ce qu'il y a une pression, maintenant qu'il y en a un premier qui a été publié, au niveau du deuxième, au niveau de ton écriture en ce moment? Ou non, en fait, ça sert plutôt de moteur dans le sens...
Non, c'est ça, c'est assez motivant, en fait, de voir que là, maintenant, bon, je vais au moins avoir... une éditrice qui me lira, ça c'est déjà le fun en partant. Sinon, moi je me mets un peu de pression pour faire mieux, plutôt vis-à-vis de mes propres critères qu'autre chose.
Mm-hmm. Alors la réaction au sujet de ce premier roman, Comme des sentinelles de Jean-Philippe Martel, a quand même été assez positive jusqu'ici. Il y a personne qui a semblé vouloir sauter à pieds joints
pas trop,
sur ton texte.
Mais l'ont pas dit. Non.
Ben, ou ils ont posé le publier.
Ouais.
Mais dans certains cas, plusieurs ne se seraient pas gênés pour y aller à fond.
Ouais.
Est-ce que tu penses que c'est d'une certaine façon parce que le lectorat était déstabilisé parce que c'était quelque chose qui n'était pas dans les standards ou dans les stéréotypes du roman québécois et que déjà là, ils ont fait ah, bon, ben déjà, c'est rafraîchissant et puis. Qu'est-ce qui se passe selon toi? Évidemment, c'est difficile de dire « Ah, ben moi, c'est sûr, mon livre est formidable, c'est sûr que tout le monde l'a aimé. » Je pense pas que sans en aller là, qu'est-ce que tu penses? Quel est l'attrait, plus universel de ton livre, jusqu'à une certaine façon?
Il y a quelque chose, justement, que ben, moi, je considère du naturel dans l'écriture. Peut-être, en même temps, oui, il y a quelque chose qui renouvelle, mais en même temps, une forme... qu'on connaît, c'est-à-dire un récit de soi, c'est un personnage masculin, un peu troublé, etc. Donc ça, on a déjà vu ça, on a des repères de lecture en même temps. Peut-être que ça plaît ou non. Bon, ça, je sais pas. En réalité, je sais pas trop ce qui fait que ça marche ou non.
Donc on verra où le deuxième roman nous mènera en tant que lecteur.
Oui.
Et est-ce qu'il y a déjà un échéancier? Prévu ou ben non, à travers tous les cours qu'on donne, on ne sait pas trop comment on va réussir à en arriver au bout. Si t'es très très rigoureux dans ta.
Pour l'instant, j'ai pas trop le temps de travailler, mais je me fixe des objectifs assez sportifs. J'aimerais ça terminer rapidement et puis publier régulièrement.
Donc, nous nous entretenions avec Jean-Philippe Martel pour son premier roman Comme des sentinelles. Et merci beaucoup.
Merci.
De CKCU FM 93,1. La radio de Carleton University à Ottawa, Canada, c'était Les actualités littéraires dans le monde francophone, une émission de CKCU Literary News, diffusée en continu et en différé, telle qu'indiquée sous CKCU Literary News dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter sous CKCU Lit News, en un seul mot. Merci et au plaisir de vous lire!